En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Commencer en disant que chaque faction, dans le temps des guerres de religion, a dû se créer ses propres marqueurs, sa symbolique spécifique, afin de placer ses violences dans ce qui était imaginé comme relevant d'une attente de Dieu. Il y eut ce qu'on peut appeler un travail des acteurs du conflit, spontané comme programmé, pour projeter de manière scénographique, dans le moment des violences, la nécessité de participation à une guerre qui était voulue par Dieu et qui était donc la guerre des hommes pour Dieu. De la sorte, la violence exercée contre l'autre, parce qu'il était un ennemi de Dieu, devait être une métaphore du corps social purifié, rendu à son unité, réapproprié à Dieu. Mon objectif ici, dans cette perspective, loin des explications sociales, économiques ou politiques réductives de la tension violente des acteurs, et de montrer que les militants des confessions en guerre sont parcourus par une tension d'adhésion aux exigences de leur Dieu, et que donc leurs violences sont des actes de foi qu'ils placent sous le regard de leur Dieu, des actes aussi de projection de référents théologiques dans la praxis même violente, et de là découle que, qu'on soit catholique ou huguenot, on ne pratique pas les mêmes champs symboliques de violence, les mêmes référents. On est dans une opposition qui se poursuit donc dans la symbolique. Alors je voudrais commencer en analysant les violences protestantes comme projection ou production de signes. Non, les violences catholiques comme projection ou production de signes, alors que je montrerai que les violences protestantes sont au contraire des éradications de toute signalétique. Pour ce qui est des catholiques, c'est dans leurs gestes même que les foules expriment la dynamique d'agression qui les porte à l'action, en utilisant le corps de l'adversaire pour précisément signifier que l'espace est, par la violence, lavé de l'offense à Dieu, quelle hérésie, entre guillemets. Le corps du huguenot, dans la geste de mise à mort par les fidèles encadrés, souvent par des soldats, n'est pas statique. Il se déplace et s'expose à travers la cité ou le bourg ou le village, afin de rendre public la réappropriation de l'espace dont il est l'instrument. À partir, en effet, du début de l'année 1560, les scènes macabres vont se répétant, donc impliquant le concept de rituel. Elles sont fixées pour la postérité dans l'histoire ecclésiastique des Églises de France, de Théodore de Bèze, ou dans le martyrologe de Jean Crespin. D'une part, tantôt les agressions, toujours collectives, visent un individu seul dans la foule, et je vous citerai un extrait, « Mais la rage de cette populace ne put être retenue, que notre frère fût tué, exerçant sur son corps tant d'inhumanité et cruauté qu'il est impossible de les décrire. Entre autres choses, par trop barbare, ses entrailles lui furent arrachées du ventre, traînées par la ville, puis jetées dans les fossés d'Icelle, en un lieu le plus puant et infect. Son cœur et son foie furent départis, emmanchés dans des bâtons, et porté par la ville comme en triomphe », fermez les guillemets. D'autre part, à l'occasion de l'investissement d'une ville par une armée, ou d'une action d'éradication préméditée, ou d'un conflit opposant les deux communautés religieuses pour le contrôle de l'espace urbain, on peut voir que les huguenots sont l'objet là d'un massacre qui fait des victimes en nombre variable, 5, 10, 100 comme à Tours en 1562, plusieurs centaines dans d'autres cas, voire ces fameux 2500, 3000 victimes dans le Paris d'août 1572, des victimes souvent exposées ensuite au regard de leurs coreligionnaires demeurés vivants. La disponibilité collective à la violence et à la guerre de religion, qui exige une ritualisation et donc la création immédiate de signes, s'expliquerait de la manière suivante. La religion, entre guillemets, papiste, dans toutes ses expressions du milieu du siècle, est un appel à la destruction de l'hérésie, à une œuvre de justice voulue par Dieu. L'espace, par les rituels de violence, se trouve comme scellé de la justice de Dieu, En un simulacre de procession, les cadavres ainsi parcourent les villes, subissant une série de mutilations des lieux choisis, par exemple les lieux des exécutions capitales. Il s'agit pour les violents, soldats et civils unis, comme lors du massacre de Sens, de resacraliser, de resignifier l'espace, d'exprimer à travers le corps de l'ennemi l'adhésion du peuple à la justice eschatologique de Dieu. Le massacre de l'hérétique participe donc d'une scénographie de réconciliation et d'amendement, disant que l'espace est réoccupé, repossédé par Dieu et placé sous le signe de Dieu. Il n'est pas étonnant que cette scénographie participe d'une immanence divine. Ainsi, lors de la Saint-Barthélemy parisienne, le matin du dimanche 24 août, c'est vers 7 heures que, parallèlement au début du massacre, se produit dans le cœur vivant de la capitale, le cimetière des Saints Innocents, un miracle mystique, le refleurissement à contre-saison d'une aubépine séchée depuis 3 ans, sur les feuilles desquelles furent vues perler des gouttes de sang. Cette grande illusion collective n'en est pas moins intéressante, au sens où, aux marques sanglantes dont les soldats et civils impriment l'espace de la cité pour la rendre à Dieu, le Fils de Dieu lui-même mêle sa propre marque, son sang qui, jadis et pour l'éternité, a coulé pour la rédemption de l'humanité pécheresse. Il y a une sorte de rapport entre ce sang de Dieu qui vient avant l'explosion des violences les plus intenses et le sang qui va couler. La violence, alors, est la transcription des données élémentaires d'une culture de l'immanence. Avant le temps de la violence des hommes, mais dans leur imaginaire, il y eut une obsession de la violence de Dieu. C'est le grand prédicateur parisien des décennies 1530-1550, François le Picard, qui affirmait que les signes dont Dieu a dit qu'ils seront avant-coureurs de sa venue étaient désormais dans le monde. Apostasie, athéisme, antéchrist se faisant adorer par Dieu, et il concluait « Nous pouvons bien voir combien le jour du jugement s'approche, car malice abonde plus que jamais, il semble qu'il n'y a point de Dieu comme nous vivons. » Et nous retrouvons la pression eschatologique dont M. Contamine a parlé. La prédication du Jacobin d'Ivolé à Provins, durant le carême 1561, dans un contexte de troubles grandissants, reprend une thématique identique. Le royaume de France est bibliquement dit être sous le coup de la malédiction de Dieu, dont les hérétiques sont les signes. Il est sur le seuil d'une grande tribulation, prophétisa, entre guillemets, à la France sa ruine et désolation prochaine, et il l'appela par plusieurs fois, en plusieurs sermons, misérable et de Dieu maudite. L'hérétique est donc imaginé en termes de signes divins, d'avertissements divins, il participe d'un langage divin, il parle autant de lui-même, de son péché, cet hérétique, que d'un Dieu qu'il a placé providentiellement parmi son peuple pour dire à ce peuple qu'il vit dans la faute et que le jugement est imminent. Signe divin, il devient lui-même, par l'effet de la violence, un signe humain de pénitence et d'appel à la miséricorde de Dieu. En lui, en l'hérétique, s'établit un dialogue de signes entre Dieu et les hommes. La violence des hommes vise donc à répondre aux signes de Dieu par des signes, par une signalétique et dans un contexte de peur de la fin des temps. Parallèlement, toute une intelligentsia de clercs a utilisé l'imprimerie pour enseigner qu'il ne peut y avoir de salut que dans la mise à mort des réformés. Dans de multiples libelles, le prêtre Artus Désiré a redit que la présence des hérétiques est un signe eschatologique du dernier temps où maintenant nous sommes, entre guillemets. Seul l'amendement peut sauver de la damnation le peuple qui a rompu par ses péchés avec Dieu et mérité l'hérésie. La violence est dite donc obligation humaine, c'est par elle que Dieu pourra être retrouvé. Elle sera une violence de Dieu qui affranchira le catholique de sa culpabilité dans le geste même de mise à mort de l'impie et dans les signes qu'il tracera sur le corps. Il faut donc la guerre, le massacre le plus sanglant possible pour que Dieu se remette à aimer d'amour les hommes, pour qu'il oublie l'infidélité et l'offense. Les événements alors procèdent par mise en scène, par théâtralité, précisément en jalonnant l'espace de scénettes qui sont autant d'actes de foi de la part des violents. La violence collective catholique théâtralise d'abord le dévoilement de la lubricité de l'hérétique. Dès l'affaire de la rue Saint-Jacques en 1559, on voit que les femmes arrêtées au cours de la découverte d'un conventicule calviniste tout près de la Sorbonne sont décoiffées, traitées de putains par la foule catholique. Puis, la violence peut mettre en scène un imaginaire de l'hérétique, coupable du crime de lèse-majesté divine, fornicateur sous l'apparence de la piété, dans des tableaux macabres qui disent une prophétie advenue de la surrection des hypocrites dissimulant les corps charnels et dont il faut signifier qu'ils sont ces hypocrites. À Orange, en 1562, les cadavres des femmes massacrées sont ainsi exposées nues après avoir été, qu'elles aient été tuées, et des cornes de bœufs, des pierres ou des petits pieux leur sont mis, je cite, dans les endroits que la pudeur ne peut nommer, selon le narrateur. Cornes de bœuf, allusion aux membres du diable, vous savez. Des rituels évoquent encore la débauche qui a poussé l'homme et la femme vers l'hérésie, comme celui consistant à étendre des corps nus enlacés dans des positions évocatrices ou embrassant des pourceaux morts. Comme encore celui du brandissement, on l'a vu, des entrailles au bout d'une pique, entrailles qui sont imaginées être le siège des pulsions charnelles, le lieu où Satan habite la créature. L'espace, par ses rituels et ses signes, subit une purification. Et il souligne qu'un seul Dieu peut être honoré dans la cité. Cette dernière se trouve, pensée dans le cadre d'une représentation corporaliste, tous les citoyens font partie d'un corps qui doit être uni autour des saints patrons qui glorifient la ville. L'espace même donc de la vie civile se projette dans les représentations de manière corporaliste et la présence des hérétiques est perçue, les prédicateurs le disent, comme une pollution, une maladie qui risque de faire mourir l'ensemble du corps si elle n'est pas soignée par des moyens radicaux. La violence que subissent alors les corps huguenots vise à restituer son intégrité au corps social, à le soigner, à le guérir, et d'où les rituels qui laissent aux quatre éléments, le feu, la terre, l'air, l'eau, exercer une forme symbolique de vengeance sur le corps. L'exemple le plus frappant, c'est le corps émasculé décapité de Coligny, traîné d'abord par des petits-enfants à travers la cité par les bouts, jeté sur un feu temporairement à un carrefour, abandonné à moitié plongé dans les eaux de la Seine, et enfin pendu par les pieds au gibet de Montfaucon. Les quatre éléments. Occuper l'espace, donc, c'est bien faire reprendre par des signes à l'espace son aptitude à être un lieu de communion entre l'ici-bas et le au-delà. La violence ne s'arrête pas là. Elle procède aussi par défiguration pour désigner implacablement les hérétiques comme ceux dont Dieu a prédit qu'ils se sépareront de lui, toujours par désir de satisfaire leur chair. Ce n'est pas par hasard si, au cours des grands massacres, les cadavres des huguenots sont traînés rituellement dans les boues, laissés sur des fumiers, jetés à la voirie. Ils sont ainsi habillés d'ordures, défigurés et déshumanisés, comme pour déclarer qu'ils ont perdu leur humanité en perdant leur âme qu'ils ont offerte à Satan, qu'ils n'ont donc plus rien de commun avec la créature faite par Dieu à son image. Ils sont morts à Dieu, ils sont pourriture et immondicité pour avoir commis l'adultère spirituel avec Satan, et la violence, sous le regard de Dieu, jette, les révèle dans, en leur vérité d'immondicité. Le même processus de déshumanisation ou de défiguration se retrouve dans leur rite qui consiste à frapper d'infinis coups les corps morts, à commencer par les visages. Ces coups sont destinés, en rendant informe les corps, à marquer la séparation avec Dieu. Avec Dieu, l'informe devient le signe même de la rupture avec Dieu. Et les textes insistent sur ces termes, jusqu'à perdre forme humaine. La conscience qui programme la gestuelle de violence est valorisée encore par des rituels que l'on peut qualifier d'animalisation et qui actualisent les paroles christiques annonçant qu'au dernier temps, dans le but de détruire l'Église, les loups se déguiseront en brebis, corrompus ainsi que bestes brutes, et parce que morts spirituellement. L'animalisation décape, sous l'apparence de l'enveloppe corporelle commune à tous, la vérité d'un corps bête, découvrant que l'hérétique fait partie de ceux dont Jésus a prophétisé qu'ils viendront au dernier temps avec la bête assaillir son église sainte. Les meurtriers se trouvent réintroduits par ces signes qu'ils envoient dans l'accomplissement de la violence divine des derniers temps du monde. Récurrents sont les textes qui disent que les victimes sont traitées comme des bestes, sont les petits-enfants de Provins attachant par les pieds un hérétique et le tirant de carrefour en carrefour par les rues, je cite, « comme on fait d'une bête morte ». D'un être sans âme, parce que en se détournant de Dieu, il a tué son âme. Ce sont encore des chasses aux huguenots, organisées par l'espace, coursées à travers l'espace communautaire, comme des bêtes qui sont organisées. Une autre expression de cette violence est celle qui infernalise le corps de l'hérétique, en inscrivant sur lui les signes qui rappellent les peines que les diables font et feront souffrir en enfer pour l'éternité aux réprouvés. Les massacreurs catholiques veulent par là s'immerger dans une durée d'accomplissement sacral. Et je voudrais juste citer, dans le théâtre de la cruauté catholique, la fréquence des mutilations pratiquées sur les visages des massacrés. Arrachage des yeux, sectionnement du nez et des lèvres, essorillement, par lesquels la mort de l'hérétique semble anticiper sur l'enfer. On a un texte contemporain qui décrit des diables présentant des serpents et des crapauds rongeant les mains, les nez, les oreilles et les yeux des damnés, et aussi un ministre du culte que l'on essorille, qui on crève les un ministre protestant que l'on essorille et à qui on arrache les lèvres et à qui on dit, avant de le jeter dans une rivière, va maintenant retrouver ton maître Satan. Parallèlement à ce masque d'horreur posé sur l'hérétique, il y a aussi une manière de faire mourir l'homme par où il a péché. Le corps supplicié devient le lieu qui prophétise et enseigne le châtiment que Dieu a voulu que ses ennemis endurent dans les profondeurs infernales. Ainsi, vous le savez, dans les représentations traditionnelles de l'enfer, les friandises et les mets recherchés par les gourmands durant leur vie se transmuent en fiel, venin et amertume qu'ils devront absorber pour l'éternité. Pas étonnant alors qu'un huguenot, parce que les huguenots refusent le jeûne et la polémique catholique dit que c'est pour satisfaire à la gourmandise, pas étonnant qu'alors un drapier d'Orléans soit attaché pour avoir mangé chair en carême à un poteau et forcé à dévorer de l'excrément humain avant d'être massacré. Pas étonnant aussi que les cadavres, les bouches des morts soient remplies de feuilles de Bible en français, répondant à cette dénonciation comme quoi les calvinistes mangent l'évangile tout cru sans passer par la médiation des prêtres et de la tradition. Si on veut comprendre les ressorts de cette pulsion d'agression qui fait de la guerre conduite contre l'hérétique une guerre de Dieu, il faut la rattacher à une culture qui produit une vision de celui qui vit dans la différence religieuse et qui fait de l'espace communautaire un espace de théâtralité eschatologique. Si la violence est vécue comme une œuvre de justice voulue par Dieu, c'est parce qu'il y a eu tout un travail de parole, de prêtres et de moines. Les polémistes catholiques disent, les prédicateurs le répètent, que, je cite, « le diable étant la thèse des hérétiques », que le diable est réduit à l'état animal. Je cite, « c'est pourquoi quand une personne est hérétique, il est appelé loup, le paillard est appelé pourceau, chien, cheval hennissant. Un ambitieux et cruel est appelé lion, un envieux est appelé chien en l'écriture, et le fin et trompeur est appelé renard. Le disciple de Calvin, parce qu'il est censé vénérer un dieu qui n'est qu'une illusion diabolique, est dénoncé comme saisi intérieurement par le diable, par une idole qu'il adore et qui est en lui, je cite, une grande statue d'or et d'argent, d'airain, de fer et de briques, qui est l'invention du cerveau humain. Aucune hésitation ne doit, aux yeux des prédicateurs, s'interposer entre l'exigence divine d'extermination et l'acte de mise à mort. Tuer n'est pas péché, c'est au contraire aimer Dieu, aller au-devant d'un désir de Dieu et donc répondre aux signes et avertissements de Dieu par des signes qui sont des signes d'amour. Le massacre est un acte d'amour, disent les prédicateurs. Chaque corps humain est pensé donc comme un corps habité par le diable, une idole qu'il faut rendre à la pourriture qu'elle s'efforce de dissimuler. C'est être dans la parole de Dieu que de tuer. Il y a obligation de Dieu dans ce contexte parce que Dieu veut la violence et l'obligation est celle de chaque fidèle de Dieu quand il est référé à l'énoncé biblique selon lequel tout séducteur qui détournerait le peuple des commandements divins doit être lapidé dans l'oubli des liens mêmes de la chair et du sang. Quand ton frère, je cite, fils de ta mère ou ton fils ou ta fille ou ta femme qui est ton saint ou ton prochain, lequel t'es comme ton âme, te viendra inciter, disant en secret, allons et servons aux autres dieux, lequel tu n'as connu, toi, ne tes pères, ne lui consent et s'il ne l'escoute pas, aussi que ton œil ne lui pardonne point et ne lui fait miséricorde et s'il ne le cache point. Mais tu l'oxyras, ta main sera sur lui, la première pour le mettre à mort et après la main de tout le peuple. Voilà ce que l'on peut voir dans ces textes. La violence n'est pas un crime, le meurtre n'est pas un crime, elle est justice, médecine, acte pur, offrande à Dieu, et donc signe par lequel on parle à Dieu de l'amour que l'on a pour lui. Le prêtre Artus Désiré va jusqu'à avancer dans ce cadre que le pardon est un péché en un temps où il n'est plus question de tergiverser avec le mal parce que chaque instant augmente la puissance de Satan. Le combat est nécessaire jusqu'au sacrifice de soi pour la gloire de Dieu. Je cite, « Ceux qui répandront leur sang pour cette cause juste et bonne sont assurés que Dieu leur donne plein pardon de tous leurs péchés. Et si nous pardonnons au moindre, Dieu nous exterminera tous. » La guerre est donc une guerre sainte parce que en même temps qu'elle est agie, elle fait surgir dans ceux qui obéissent à Dieu une immanence divine. Ils ne sont pas eux-mêmes, ils sont les bras de Dieu et ils sont saisis donc par la transcendance. Leurs gestes projettent leur foi au Dieu dans une signalétique de la possession par l'Esprit divin. Alors, je vais en venir pour ma deuxième partie dans la gestuelle à la gestuelle huguenote. En toute logique, parce que le Dieu calviniste est un Dieu d'absolue transcendance, à distance infinie des hommes, il ne peut pas y avoir de relation à l'espace social, à l'espace commun, qui s'exprimerait par des signes, par une production de signes, par une rhétorique de signes et donc des corps. Ce ne sont pas des signes qui seront inscrits dans l'espace, mais ce sera l'espace qui sera l'objet d'une action de désignalisation, de destruction de tout ce qui peut participer d'un échange linguistique avec Dieu. La violence, donc, sera une pédagogie négative qui enseignera que c'est offense à Dieu que de croire que Dieu peut être présent dans l'univers humain par le truchement donc, d'une rhétorique des signes. D'où l'opposition que l'on voit. Pour les catholiques, l'hérétique a basculé définitivement, il est irrécupérable, d'où les massacres. Pour les protestants, l'ennemi de Dieu peut être racheté, il suffirait de lui présenter la vérité du langage divin, du logos, pour qu'il se pénètre de la miséricorde divine. Et on ne trouve donc pas les grands massacres du côté protestant qu'on trouve chez les catholiques. On trouve juste l'éradication volontaire des prêtres, parce que c'est eux qui entretiennent le peuple dans les ténèbres de l'ignorance et lui l'interdisent d'avoir accès à la vérité. Les violences huguenotes, dont en premier lieu l'iconoclasme, qui s'exerce surtout après 1559, peuvent s'interpréter comme des violences imposées, planifiées méthodiquement, afin d'assurer la plus grande glorification du Dieu de l'Évangile. Elles visent à enseigner la gloire de Dieu à tous, tout d'abord dans le cadre d'une pensée optimiste qui rêve de ce que montrer aux hommes la puissance de la vérité redécouverte l'emportera irrésistiblement sur les illusions papistiques. J'emploie le terme pour rentrer dans le langage de l'époque. La violence semble agir donc rationnellement parce qu'elle participe de l'imaginaire d'un temps qui doit voir se constituer une société d'alliance dans la rationalité même de la toute-puissance implacable de la vérité avec un V majuscule. Elle peint dans une première phase les corps, le sang catholique, même celui des prêtres auxquels l'exil est proposé dans les premières villes conquises en 1562, ne coule que peu. Le temps est censé faire son œuvre. C'est dans son cours ouvert que sera parachevée la conquête des âmes égarées. Des rituels de libération sont théâtralisés, tels celui consistant à faire monter un prêtre à l'envers sur une mule, à lui mettre la queue de la bête dans la main, à le promener aux côtés de soldats qui portent au bout de pique l'un un missel, l'autre une hostie consacrée, le dernier des ornements liturgiques, les signes de l'adultère avec Dieu. Puis une parodie de procession ou de charivari s'achève sur la place publique où le prêtre, descendu de sa monture, doit se déshabiller, jeter dans un bûcher ses vêtements sacerdotaux et les autres objets liturgiques qui l'ont accompagné, avant de quitter l'espace de la ville ou du village. C'est ici le départ de la messe, hors de l'espace rendu à la vérité évangélique, qui est représenté dans le croisement avec la culture carnavalesque, qui faisait qu'après un temps de débauche et d'abandon au corps, on rentre dans le temps de la pénitence. Mais ce que l'on note immédiatement, c'est qu'il s'agit non pas par cela de tracer dans l'espace des signes, de les mémoriser, mais au contraire de faire disparaître dans le bûcher les signes de l'offense à Dieu. Et il faut vraiment voir, là, de même que dans le catholicisme, il y a un transfert de l'immanence et de l'enchantement du sacré, il faut voir dans la théologie, dans les actes, un transfert de la théologie calvinienne qui refuse que tout signe de Dieu puisse être présent dans le monde. Les cibles de cette décennie analytique sont les images et les corps saints. Là encore, il est question de rendre l'espace de vie des hommes à la volonté de Dieu, exprimée dans le Deutéronome. L'espace doit réacquérir une lisibilité immédiate qui montre que les hommes ont cessé de subir les séductions du diable, se sont débarrassés des illusions et fantasmes dans lesquels l'Église romaine les faisait vivre. Il doit être une pédagogie même de la volonté d'un Dieu qui ne peut être vénéré que spirituellement, hors d'un langage des signes. En conséquence, lorsqu'une ville est conquise à l'évangile par une armée protestante, soit par assaut, soit par ouverture des portes à l'initiative d'un groupe militant sympathisant, les soldats procèdent à une avancée à travers les rues jusqu'au sanctuaire principal qui, aussitôt, va subir l'iconoclasme. La violence est symbolique alors d'une réconciliation. Les images sont brûlées, brisées, maculées d'ordures, après avoir subi des rituels de dérision, invitant le saint à faire lui-même le miracle que l'imaginaire catholique lui attribue. Mais primordialement, il s'agit de scénographier la thématique d'une impuissance naturelle de ce qui n'est que matière et a été fabriqué par des mains pécheresses d'hommes. Une théâtralité du néant qui produit d'elle-même la négation de la rhétorique des signes. À ce propos, plus encore que les images, les corps saints jouent un rôle presque fonctionnel dans les rituels de prise de possession de l'espace et de restitution à Dieu, parce que les... Quand on détruire les signes de l'abomination papiste, c'est parler de ce qui est contraire au commandement divin. C'est dire que Dieu est pure spiritualité et que tout ce qui émane de l'imagination humaine se superpose à la parole de Dieu est offense, profanation, péché. Adorer et faire adorer les corps saints et les reliques, c'est transférer aux yeux de Calvin dans un ailleurs, un honneur qui est dû seulement au Christ. C'est d'être dans, entre guillemets, la fantaisie, la folie, qui est un sacrilège parce qu'elle détourne du Dieu vivant en se laissant aller à adorer des, je cite, des créatures mortes et insensibles. Le langage de la dénonciation repose aussi chez Calvin sur une assimilation olfactive que l'on va voir projetée dans les actes protestants. Le péché de l'homme est puant pour Calvin. Le culte des reliques, qui marque la domination du péché, est aussi puant. Les reliques puent parce qu'elles profanent la grandeur de l'éternité du Christ. Et Calvin tourne en dérision la dévotion catholique qui, pour lui, concrétise l'univers de l'apparence et de la supercherie dans lesquelles les catholiques sont immergés. L'adoration est profanation parce que adoration dans les reliques de créatures mortes qui nient dans la mort même qui est en elles la gloire éternellement vivante du Dieu vivant. De la découle que bien souvent, les reliques ou les corps saints sont jetés aux ordures, rejoignant ceux qu'ils sont par derrière les apparences dont le péché humain les apparaît. Pierre Viret, grand réformateur calvinien, dans cette perspective, stigmatise le culte des reliques grâce à une comparaison entre les prêtres et les pharisiens. L'or et l'argent dont les prêtres de l'Église romaine entourent les corps saints ne servent qu'à appeler les dons et oblations et donc à entretenir leur avarice. Ils leur permettent, je cite, de manger les pauvres, entretenus par eux dans la crédulité. En conséquence, on comprend pourquoi, peut-être, ce que les destructeurs de sacralité voudront découvrir dans les reliquaires ou les sépulcres pourra être, selon un jeu de mots facile, le reliquat de l'appétit des prêtres. Pourquoi ils s'efforceront de rendre visible ce qui est une supercherie abominable en lui donnant une manière d'animation au sens scénographique. Qu'est-ce qui se passera souvent? Eh bien, ces ossements, ces reliques, ces ossa sacra vont être donnés aux chiens à manger comme ce reliquat de ce que les prêtres ont mangé dans leurs exigences de dons et d'offrandes. La thématique de la folie vient conforter et structurer la démarche fou aux yeux de Calvin qui cite saint Paul et celui qui n'a pas la crainte de Dieu enracinée en lui parce qu'il se condamne à la mort éternelle par l'abrutissement de sa bestise. La folie est dévoiement et perception, un abandon de l'être à sa chair, qui s'exprime de manière physique, je cite, dans la rage prodigieuse des hommes, quand ils prétendent d'enclore ce qui est infini et incompréhensible en une si petite mesure comme est leur entendement. Et c'est ce qui se passe dans les violences, dans les destructions de reliques. Il s'agit de montrer que l'Église romaine a entretenu un règne d'inversion et de folie et qu'il va à son terme en même temps que les signes par lesquels ce règne était imposé vont disparaître. Lors de la prise de Barjol par les comtes de Tende et de Crussol, le 6 mars 162, les reliques des saints, dont saint Marcel, évêque de Die, sont par exemple jetées dans la rue et la boue avant d'être brûlées. Et à Rouen, la ville tombe dans le camp condéen le 15 avril. De bonne heure, les calvinistes cherchent à faire un inventaire des trésors de l'Église, mais très rapidement, il y a débordement. La foule, le dimanche 3 mai, par diverses bandes, envahit la cathédrale, rompt les images par grande violence et surtout brise les reliquaires, cherche à les jeter par terre et les font brûler en un feu qui est dans l'église cathédrale. Parmi ces reliquats, il y avait les ossements et reliques du corps de saint Romain. Cette cérémonie de crémation du saint patron de la ville solennise comme l'achèvement de la durée de purification au cours duquel on a vu le procès de la messe être réalisé. Elle vient comme dire que le temps des superstitions est clos, que l'espace de la cité est voué désormais au seul amour de Dieu, que l'on sort de la folie qui faisait adorer la chair contre l'esprit à travers ces reliques. En plus, ce qui est intéressant, c'est que les ossa sacra, je vais plus vite, avaient réputation de diffuser le fameux parfum, de la fameuse odeur de sainteté, suave et délicieuse. Et qu'est-ce que les calvinistes vont faire pour marquer qu'il y a impureté et qu'il y a au contraire contradiction à la toute-puissance de Dieu? Ils vont justement les précipiter dans l'ordure. Ils vont aussi montrer, par exemple à Sancerre, lorsque le tombeau de Saint-Rouille est brisé et ouvert, je cite, « On ne trouva rien dedans que deux grosses pierres blanches enveloppées de vieux morceaux de soie comme du taffetas, avec force crotte de souris. » La thématique de l'ordure vient donc projeter dans le récit que fait le narrateur le thème de la folie et de la réalité de l'ordure. Je voudrais juste terminer sur la réforme en disant qu'il ne s'agit que de la première séquence. La réforme ensuite va glisser dans une violence sanglante qui n'en résulte pas moins d'une adaptation. Il va s'agir à partir de juin-juillet 1562, face à des papistes dont la violence retarde le triomphe attendu de la vérité, d'utiliser la violence. Le massacre des prêtres vient témoigner de la puissance même de la vérité. La violence donc se fixe sur les seuls prêtres et moines, et il s'agit de recréer l'utopie d'un temps toujours proche de victoire, puisque quand auront disparu ceux qui sont nommés la peste du monde, les rasés, le monde pourra enfin être libre de Rome. C'est là où les calvinistes poursuivent leur œuvre de destruction des signes, marquant ou identifiant l'espace, en mettant à mort ceux qui assurent par leur langage de la pérennité des signes. Les prêtres ont alors, en même temps que les images, le rôle d'assurer le triomphe providentiel de l'Évangile par le traitement, et on retrouve le thème de l'inversion. Ce sont des prêtres revêtus de chapeaux de fou avant d'être mis à mort, montés à l'envers sur une jument dont ils tiennent la queue en signe de l'adultère spirituel commis avec Satan, prêtres contraints de dire la messe devant un porc installé sur l'autel, prêtres éventrés pour montrer par l'exhibition de leurs entrailles qu'ils n'ont pas vécu spirituellement, mais pour la satisfaction de leur passion, lubricité, gourmandise, moines enterrés vivants pour signifier qu'ils vivaient dans la clôture comme des femmes, moines émasculés, prêtres contraints d'adorer de l'ordure, etc. Alors je m'arrête là, je voudrais juste terminer en disant que l'on a vraiment deux discours contradictoires, deux champs linguistiques contradictoires dans les violences. D'une part, des violences productrices de signes, dialoguant par ces signes avec un Dieu lui-même qui parle aux hommes par des signes, et de l'autre côté, des calvinistes qui détruisent tout référence sémantique, qui désenchante l'espace, parce que seul le Dieu du Verbe, seul le Dieu immensément majestueux et éloigné des hommes doit être adoré. Voilà, je vous remercie de votre attention.